Alors que le gouvernement vient d'étendre les mesures de couvre-feu et que les perspectives actuelles d'évolution de l'épidémie ne sont pas vraiment au beau fixe, un vaccin contre le SARS-CoV-2 se fait plus que jamais attendre. On fait un tour d'horizon des pistes de recherche et des problématiques liées à la vaccination. Nous parlerons aussi des bullshit jobs, des jobs à la con, une notion développée par David Graeber, décédé début septembre, et qui définissait son travail comme de l'anthropologie punk. Et enfin, le mystère de la reproduction des anguilles serait-il sur le point d'être levé? Vous le saurez peut-être si vous nous suivez jusqu'à la fin de l'émission. Vaccin contre le Covid, anthropologie punk et reproduction des anguilles, c'est le programme iconoclaste qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour dérouler ce programme iconoclaste, il ne fallait rien de moins que les Sex Pistols de la vulgarisation scientifique. Bonjour Olivier Lascar.
Oui, c'est moi, Sid Vicious. Bonjour à tous, bonjour
chef,
à toutes.
Chef du pôle numérique de notre partenaire chéri Science et Avenir, bonjour Mathilde Fontaise.
Bonjour.
Du magazine Science et Vie, bonjour Pierre Kerner.
Bonjour.
Auteur du blog Strange Stuff and Funky Things et du livre Moi Parasite aux éditions Belin. Mais on commence par la Nina Hagen de l'actualité scientifique. C'est Natacha Triou pour le journal des sciences de la semaine. Bonjour Natacha.
Bonjour Nicolas.
Et on commence ce journal avec le premier sujet, évidemment, des soupçons de fraude planent sur Greg Semenza, qui est lauréat du prix Nobel de médecine 2019.
Oui, le professeur à l'université Johns Hopkins aux États-Unis a été récompensé l'an dernier pour sa découverte des protéines IF qui sont impliquées dans l'oxygénation des cellules. Le journaliste d'investigation Leonid Schneider ainsi qu'Elisabeth Bick, la microbiologiste spécialiste en méconduite scientifique, rapportent quelques soucis. Une trentaine d'articles du Nobeliste apparaissent sur le site de PubPeer. PubPeer, c'est un forum de discussion scientifique où les publications sont examinées à la loupe pour vérifier si les figures sont bien conformes. Ce site a déjà révélé un certain nombre de méconduites scientifiques, car les falsifications passent parfois au travers des mailles de l'examen par les pairs. Alors, ce qui apparaît sur PubPeer, donc, c'est que les articles de Greg Semenza porteraient des signes révélateurs de manipulation de données, des figures auraient été photoshopées ou copier-coller. Olivier Le Gall est président du Conseil français de l'intégrité scientifique.
Qu'on voit émerger très récemment, là c'est juste émergent, donc c'est un petit peu tôt pour en parler de manière très précise, mais ce qu'on voit émerger, c'est des problèmes de fabrication, falsification en tout cas, modification des résultats expérimentaux, qui sont quelque chose qui nous rappelle des affaires qui ont concerné les communautés françaises il y a quelques années, et qui parfois concerne la manière qu'ont les biologistes de présenter leurs résultats. C'est pas pour cibler les biologistes, mais c'est une façon de sur des gels d'électrophorèse, des bandes sur ces gels d'électrophorèse, c'est comme ça que ça s'appelle, qui peuvent être modifiées sur Photoshop de manière inappropriée par les chercheurs avant publication. Donc, pour s'apercevoir de ça, il faut aller examiner ces articles de manière extrêmement détaillée, mais pas d'une façon, d'une façon d'un enquêteur qui va aller chercher des empreintes digitales sur le lieu d'un crime. Mais un article, c'est pas le lieu d'un crime, normalement. Donc, il faut aller rechercher l'équivalent d'empreintes digitales dans des articles que souvent on lit sous un autre angle. L'université Johns Hopkins, dans laquelle il travaille, c'est une institution sérieuse. Ce qui doit se passer, c'est qu'il y ait une instruction qui soit faite, que la question soit posée à charge et à décharge, de manière si possible non personnalisée. Parce qu'à la fois, les auteurs sont évidemment concernés, mais c'est pas un auteur en particulier qui est... c'est pas l'affaire Semenza, même si à un moment donné, c'est ça qui sert à identifier et c'est lui le trait d'union entre tous ces articles. Chaque article est sa propre affaire. Et puis, qu'elle ait des suites académiques, des suites disciplinaires, le cas échéant. Donc, les suites académiques, c'est les articles seront corrigés pour certains, rétractés pour d'autres, ou rien du tout si tout va bien. Voilà, il y en a certains, on dirait que tout va pas bien, à première vue, comme ça. Et puis, éventuellement, des suites disciplinaires qui sont, le docteur Toto, vous avez quand même fait quelque chose qui est pas conforme, et donc vous êtes sanctionné, à la limite, à l'extrême, parce que là, on parle d'un prix Nobel. Est-ce que le prix Nobel en question vacille? Si les articles, ne peuvent plus être considérés comme soutenant la thèse qui a valu à Greg Semenza et ses collègues le prix Nobel, la question peut se poser.
En bref, selon une étude parue dans la revue Quaternary Science Reviews, des empreintes humaines vieilles de 12 000 ans ont été découvertes au Nouveau-Mexique.
Une équipe internationale de chercheurs a découvert ces empreintes figées dans un sol autrefois boueux à l'époque du Pléistocène. Les chercheurs ont pu retracer le parcours de cette adolescente ou cette petite femme sur plus de 1,5 km. Un trajet aller-retour accompagné d'un jeune enfant. La profondeur des pas indique qu'elle le portait sur les hanches, à droite, puis à gauche, puis qu'elle le reposait parfois. Les traces indiquent aussi qu'elle marchait très vite, comme consciente d'un danger. Et en effet, sur leur route, les chercheurs ont aussi retrouvé des empreintes de mammouth, de paresseux géant et de félin à dents de sabre.
On poursuit ce journal avec une question. Contre le Covid-19, faut-il des mesures différenciées par âge?
On l'entend régulièrement et on l'a encore lu cette semaine sur le site The Conversation dans un article intitulé « L'analyse coût-bénéfice des restrictions plaide pour des mesures différenciées par âge ». Alors, il est vrai que ce sont les personnes âgées qui ont le plus de risques de mourir de la Covid-19. Les moins de 50 ans représentent un groupe à très faible risque de mortalité et de complications sévères et restent peu hospitalisés en soins intensifs. Ceux qui sont entre 50 et 60 ans, surtout s'ils ont des comorbidités, ont eux une maladie qui les rapproche d'une pneumonie sévère. Et ceux qui ont plus de 70 ans connaissent eux un très haut risque de mortalité. Donc, pourquoi ne pas centrer une protection unique sur les personnes âgées? Différentes modélisations montrent que cette stratégie ne serait pas efficace. Antoine Flahaut est directeur de l'Institut de Santé Globale à la Faculté de médecine de Genève.
Ce seront presque les jeunes qui seront les moteurs de la transmission, alors que ils ne vont pas du tout souffrir à titre personnel du virus en termes de mortalité ou de morbidité sévère. Donc on a une sorte de maladie un peu paradoxale où ceux qui sont les bassins de transmission les plus efficaces dans la population ne sont pas ceux qui vont souffrir le plus personnellement. Et il y a des approches qui préconisent le fait de laisser les jeunes se contaminer et de ne protéger que les personnes âgées. On a pu voir par modélisation mathématique que ce type d'approche, et puis je dirais presque tous les pays qui ont conduit plus ou moins consciemment une approche de ce type, ont montré qu'ils n'ont pas été efficaces en termes de réduction de la mortalité des personnes âgées. Au contraire, non seulement ils n'ont pas été efficaces pour réduire la morbidité totale, ils n'ont pas atteint non plus l'immunité grégaire. Donc je dirais qu'il n'y a pas de bénéfice attendu, possible, par une telle stratégie. C'est toujours sur le mythe qu'il faudrait cibler les seniors pour enrayer la problématique. La problématique, elle est intriquée entre les jeunes et les seniors. Il n'y a pas de compartiment étanche des seniors dans nos sociétés. On pourrait dire si, il y a les EHPAD. Alors bien sûr, on peut protéger davantage les EHPAD pour qu'il n'y ait pas de cluster dans les EHPAD. Mais les EHPAD ne sont pas un compartiment étanche. Qui travaille dans les EHPAD? Ce sont bien entendu des gens jeunes. Cette étanchéité n'existe pas. Donc comme elle n'existe pas, il faut absolument réduire le plus possible la transmission au sein du groupe de la population qui se contamine le plus.
En bref, la fonte des glaces en Alaska pourrait déclencher un méga tsunami sans précédent.
Et le risque de glissement de terrain des glaciers est une menace de plus directement liée au changement climatique. Un groupe de scientifiques a écrit une lettre ouverte au ministère des Ressources naturelles de l'Alaska. Des images satellites ont révélé qu'à la suite de la fonte des glaces, une pente est très instable, près du glacier Barry, sur la côte sud. Les experts craignent qu'une paroi rocheuse puisse céder brusquement. Selon eux, un glissement de terrain pourrait se produire dans les deux prochaines décennies et provoquer un méga tsunami, plus important encore que celui de Lituya Bay en 1958, qui a créé une vague de 524 mètres de hauteur. Mais pour le moment, rien de garanti, la pente pourrait encore se stabiliser.
Cette semaine, dans le Journal des Sciences, il a été question de l'unité de temps la plus courte jamais mesurée en zeptosecondes, du long Covid et des symptômes persistants de la maladie, de la mission Osiris Rex qui a prélevé un échantillon de l'astéroïde Bennu et du magma qui facilite les mouvements de plaques tectoniques. Mais également dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha, et en ultra bref.
Hier, l'ESA a déclaré qu'elle abandonnait le projet de télescope spatial infrarouge Spica. Un abandon brusque pour des raisons budgétaires. Le projet était en compétition avec deux autres dans le cadre du programme Cosmic Vision. L'astronomie infrarouge européenne est à présent presque à l'arrêt. Cette semaine, une équipe américaine a conçu une peinture super blanche, super réfléchissante, capable de refroidir les bâtiments, même en plein soleil. La peinture a refroidi un bâtiment de presque 2 degrés. Comme la consommation mondiale d'énergie devrait augmenter de 90% d'ici 2050, les moyens de se rafraîchir sans utiliser d'énergie seront vitaux dans les décennies à venir. Et enfin, la 16e édition du Festival Paris Science commence aujourd'hui. Elle se tiendra en ligne et gratuitement. 77 films scientifiques sont disponibles sur une plateforme. Les débats sont en live et enregistrés. Le thème de cette année, c'est « Femmes et sciences ». Il sera aussi question de la préservation de la biodiversité animale et végétale, d'expéditions spatiales ou encore d'éthologie.
Et enfin pour terminer, comme chaque semaine, la rubrique de science improbable. Selon une étude parue dans la revue Micromachine, des scientifiques ont piloté un microbot à l'intérieur du côlon d'une souris.
Mais c'est une première. Une équipe américaine a construit donc ce micro-robot sans batterie piloté de l'extérieur à l'aide d'un champ électromagnétique. Alors l'idée pour cet explorateur miniature, c'est de remplacer les coloscopies. Cette odyssée intestinale fut un succès. Le micro-robot a fait ses preuves sur du sec, sur du mouillé, sur des pentes montantes et descendantes. Les chercheurs ont déclaré, dans le côlon, vous avez tous ces fluides et matériaux qui suivent un chemin, mais le robot navigue à contresens. Ce n'est tout simplement pas un voyage facile.
C'est une odyssée qui pue en quelque sorte. Merci beaucoup Natacha, à la semaine prochaine. Voilà, petit tour de table comme chaque semaine autour de l'actualité scientifique de cette semaine avec un fait marquant. Si l'actualité n'était pas à ce point marquée par la crise sanitaire, on en aurait certainement parlé beaucoup plus. C'est Osiris Rex et Bennu qui est là aussi un fait d'armes de technologie, d'astrophysique Mathilde Fontaise qui ne peut qu'émerveiller.
Qui ne peut qu'émerveiller et qui fait du bien en ce moment, c'est vrai, de se sentir capable, nous les humains, d'aller envoyer une sonde, essayer d'accrocher un tout petit objet comme Osiris et essayer d'aller voir comme ça sa matière qui pour la première fois avec Hayabusa 2 qui a fait des prélèvements l'année dernière. Osiris Rex est donc le deuxième prélèvement d'échantillons sur un astéroïde de type C, un type d'astéroïde qu'on n'avait jamais eu entre les mains et qui peut nous témoigner un peu de l'origine du système solaire. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre avec impatience que ces petites sondes-là retournent sur Terre. Hayabusa est plus près puisqu'il est déjà parti cet été pour revenir sur Terre.
Mais avec beaucoup moins de matériaux puisqu'il y a un gramme à peine dans Hayabusa, alors que là, on devrait savoir normalement demain la quantité exacte, parce qu'on parle de 60 grammes qui est la quantité minimum qu'on pourrait détecter à l'intérieur de la petite capsule de récupération, mais peut-être jusqu'à 2 kilos.
Oui, c'était dès le départ. De toute façon, Osiris Rex, c'était prévu pour ramener plus de matériel. Et puis il y a aussi cet espoir qu'on l'astéroïde, en fait, on l'a vu dégazer, on l'a vu émettre une sorte, voilà, donc sans doute qu'il est plus hydraté. En tout cas, c'est l'espoir que l'autre astéroïde qui a été visité par Hayabusa. Et de toute façon, l'étude comparée des deux, voilà, les missions, elles sont pas vraiment en compétition. Et quelque part, l'étude comparée des deux va apporter beaucoup aussi à la communauté scientifique.
On va vous mettre la vidéo du Touchdown qui est vraiment, pour le coup, impressionnante. Et encore une fois, les circonstances seraient différentes. On en aurait certainement fait les gros titres comme on a pu le faire à l'époque de Phyla et Rosetta. Olivier, un mot peut-être sur Osiris Rex et Bennu?
Effectivement, ce qui, moi, me paraît particulièrement émouvant, c'est le fait de pouvoir voir cette opération. Les images sont prises à 330 millions de kilomètres de la Terre. Si je ne me trompe pas, c'est deux fois la distance entre la Terre et le Soleil. Et pourtant, on a des images de ça. On voit la façon dont la petite cartouche d'azote explose à l'intérieur du cylindre qui va du coup récolter les poussières qui ont été vaporisées à la surface de Bennu. Et ça a l'air d'être pris à côté de chez nous, quoi. C'est stupéfiant.
Pierre, sur l'actualité scientifique de la semaine, un mot, un commentaire, quelque chose qui vous a inspiré?
Oui, ce qui m'a inspiré, c'était cette petite brève sur la peinture très très blanche qui a justement des répercussions économiques et potentiellement écologiques intéressantes. Mais ce que ça m'a évoqué, c'est qui n'est pas évoqué justement là dans cette petite brève, c'est les retombées artistiques, puisque ça m'a évoqué bien entendu le matériau Vanta Black qui a été utilisé par Anish Kapoor, qui était le plus noir des noirs possible et dont il avait hérité l'exploitation unique, remplacée un petit peu plus tard par une autre substance encore plus noire par le MIT. Donc je me demande quel sera l'artiste qui va exploiter cette peinture pour faire un monochrome ultra blanc.
On verra. Pierre Soulages.
Peut-être.
Un mot aussi sur qui avait été évoqué mais dont on a parlé cette semaine et sur lequel éventuellement je voulais vous entendre. On a évoqué le fait que d'ores et déjà 3% des satellites de la constellation Starlink étaient en panne, Mathilde Fontaise.
C'est la nouvelle ère spatiale dans laquelle on se lance là et qui est effectivement cette idée qu'on envoie des satellites désormais qui vont être des satellites de basse qualité volontairement. C'est une autre stratégie en fait qui est adoptée, alors dont on peut contester la validité ou non, je ne sais pas, mais en tout cas on voit bien qu'il y a comme ça cet élan d'envoyer des constellations de plus en plus et de parier plus sur l'effet du nombre que sur l'effet de la précision absolue. Donc on parlait d'Osiris Rex tout à l'heure, ce sont des sondes qui sont faites pour ne pas se tromper et qui sont étudiées pendant des années pour ne pas se tromper. C'est très coûteux aussi de faire ça, et dans le new space dans lequel on se trouve, on est dans une autre stratégie.
Olivier ?
Une approche low cost. Elon Musk se comporte comme un cow-boy de l'espace. Il a l'argent, donc il fait un petit peu ce qu'il veut. Bon, pour envoyer ses satellites, il a fallu qu'il demande l'autorisation à l'instance internationale qui régit ce genre de choses. Mais il s'est complètement affranchi de l'avis des astrophysiciens qui, on l'a souvent dit dans votre émission, Nicolas, s'émeuvent du fait qu'en plus, les satellites de la constellation Starlink vont empêcher une bonne observation du ciel, puisque ça se traduit par des tracées lumineuses sur la voûte céleste, et des critiques que Musk avait toujours pris de haut et auxquelles il a répondu récemment en disant que les prochains seraient équipés de pare-soleil. Donc c'est toujours un peu... grandiose et dérisoire, les aventures d'Elon Musk.
On vient de vous mettre sur notre fil Twitter @laméthodefc cette fameuse vidéo du contact entre la sonde Osiris Rex et l'astéroïde Bennu. Un mot peut-être aussi pour conclure ce tour de table, Pierre, sur ce microbot qui va explorer le côlon des souris et qui remonte le courant.
C'est assez remarquable d'envisager de pouvoir faire des robots qui sont capables d'envahir un tissu, et du coup les retombées médicales sont bien entendu évidentes.
Bien sûr.
Mais il ne faut pas négliger aussi les retombées de recherche fondamentale qu'on pourra réaliser potentiellement avec ce genre de petits robots qui peuvent avoir des exploitations en écologie ou dans des écosystèmes assez, assez lointains.
Vous me souffliez dans l'oreille pendant la diffusion du message qu'on pouvait peut-être renommer cette découverte comme voyage au bout de...
Non, on va
s'arrêter là.
France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin.
Alors que la France et une partie de l'Europe ont du mal à enrayer la nouvelle dynamique épidémique et que le gouvernement vient d'annoncer hier le passage en alerte maximale de 38 nouveaux départements français, il devient donc de plus en plus compliqué de penser la sortie de crise sans le recours à un vaccin. Mais si de nombreux laboratoires travaillent d'arrache-pied à la confection de ce vaccin, c'est une route longue, semée d'embûches, avec de multiples contraintes. 12 dossiers spéciaux dans le Science et Vie du mois de novembre, Mathilde, sur la vaccination, un dossier très complet et très instructif.
Oui, on a voulu se pencher sur la question parce qu'effectivement, on a bien identifié ce rêve absolu qui pourrait nous sauver tous, que tout le monde espère, d'avoir un vaccin qui arrive et finalement l'effort de recherche qui est lancé. Et le premier constat qu'on a fait, c'est la spécificité, cet aspect inédit de ce vaccin. La mise au point d'un vaccin, il faut le rappeler, ça dure normalement 10 ans. Pour Ebola, ça a été 5 ans. Pour la grippe et la varicelle, c'est plutôt 28 pour développer ces vaccins-là. Là, on a un vaccin devrait pouvoir arriver dans un an. Il a en tout cas été injecté dans un bras humain 63 jours seulement après le décryptage du génome du coronavirus.
Incroyable, il faut vraiment le dire aux auditrices et aux auditeurs, hein, c'est-à-dire un premier test sur un être humain en 63 jours après le décryptage du matériel génétique, c'est tout simplement du jamais vu dans l'histoire de la médecine.
Et après, en termes de chiffres, on a donc 193 vaccins candidats qui sont recensés par l'OMS, 42 en phase d'évaluation chez l'homme. Donc on a comme ça une espèce de course en avant de toute une industrie hein, qui, pour des raisons bien évidemment tout à fait légitimes, et la question que ça pose, c'est est-ce qu'on garde dans cette course toutes les précautions qui sont prises normalement lors de la fabrication d'un vaccin. Et en l'occurrence, la première chose qu'a montré ce dossier, c'est évidemment que la question clé, la difficulté clé, c'est l'efficacité du vaccin. Ce vaccin sera-t-il efficace ou non? Et là déjà, on voit bien que c'est assez compliqué, parce que en fait tout le problème déjà au départ est dans les critères d'évaluation de l'efficacité de ces vaccins. Au fil des études, hein, quand les journalistes de Science et Vie ont recensé toutes ces études, on s'est aperçu qu'en fait les critères d'évaluation variaient beaucoup en fonction des vaccins qui sont étudiés. Donc des fois on compte le nombre d'infections évitées avec des tests virologiques. Hein. Des fois on compte les cas graves seulement, des fois on compte les nombres de décès, des fois on compte la charge virale. Donc en fait rien n'est standardisé. Et il y a vraiment des chercheurs qui nous ont alertés sur le fait que ça pouvait être un véritable problème après pour pouvoir évaluer, comparer ces vaccins.
Oui, parce qu'il y a un cahier des charges hein, de l'OMS, et ce cahier des charges lui-même pour la mise au point de ce vaccin reste extrêmement flou, puisque ce qu'on appelle les endpoints, c'est-à-dire les points de sortie d'études d'efficacité à la fin de l'injection, c'est soit sur la réduction des cas Covid sans plus de précision, soit la réduction des cas graves et ou de la charge virale qui doit être d'au moins 50%. Donc c'est extrêmement large.
C'est extrêmement large, et puis on sait bien qu'en plus pour cette maladie en particulier, on a bien du mal justement à faire des catégories de personnes atteintes, etc. Donc il y a des méthodes qui existent, mais après, ce qui est important aussi dans ce que vous avez relevé sur le cahier des charges de l'OMS, c'est cette contrainte d'efficacité à 50%, qui elle-même en fait est discutable. Alors il s'agit d'un compromis, hein. Il s'agit d'un compromis entre en dessous de 50%, on imagine que le vaccin finalement on agira à peine plus qu'un placebo, mais sauf que si on vise un vaccin de l'ordre de 70%, donc par exemple pour la rougeole c'est 95% d'efficacité, 70% d'efficacité, dans ce cas-là l'OMS a dû juger, on imagine, que le vaccin arriverait après que tout le monde ait développé et contracté le Covid, et cette immunité collective qui ferait beaucoup de dégâts au passage. Donc ils ont fixé sans doute ce 50% pour pouvoir avoir un compromis comme ça, sauf qu'ils l'ont fixé en plus avec donc un intervalle de confiance de 95%. Si on rentre dans les stats, ça veut dire en gros clairement que l'efficacité pourra descendre jusqu'à 30%. Ça veut dire que pour une personne vaccinée, elle pourra n'avoir que 3 chances sur 10 hein, d'être protégée contre le virus.
Ce qu'il faut rappeler, que c'est notamment... Il y a des vaccins très très efficaces, l'hépatite C 100%, la rougeole vous le disiez tout à l'heure, mais le vaccin contre la grippe par exemple est un vaccin avec un très faible taux en fonction des années, entre 30 et 40% aussi, mais néanmoins ces 30 et 40% permettent tout de même de sauver quand même un certain nombre de vies.
Oui voilà, et après on peut effectivement se dire qu'on va cibler en fait... C'est-à-dire qu'en fait, il faut le résultat de ces constatations, c'est qu'en fait, il faut peut-être renoncer à stopper complètement la propagation du virus. Pour la rougeole, je le rappelais, qui est le cas emblématique d'une réussite totale d'un vaccin, c'est-à-dire qu'on a un 95% d'efficacité, et si on vaccine 95% de la population, ce qui est raisonnable, tandis que vacciner 100% n'est pas raisonnable, eh bien, on stoppe complètement la propagation du virus. Pour le Covid, ça pourra pas être le cas, puisque l'efficacité sera bien moindre, et donc par exemple, même si le vaccin fait 70% d'efficacité, il faudrait vacciner 100% de la population pour pouvoir stopper cette maladie. Donc quelque part, peut-être il faut renoncer à stopper complètement la maladie, et du coup les laboratoires vont tenter de cibler les vaccins pour soi. Alors il y a une option qui est de cibler les effets sur les cas graves, hein. Il y a des vaccins qui vont cibler ces effets-là, mais c'est difficile aussi parce qu'il faut prouver une efficacité sur les cas graves, et donc ça revient à la question de l'évaluation des vaccins, etc. Et finalement la voie qui va peut-être être la plus stratégique, hein, ça va être les vaccins qui vont cibler finalement les personnes fragiles. C'est-à-dire que voilà, on va sélectionner les vaccins qui vont être les plus efficaces pour les personnes âgées notamment. Et là, ça repose une autre question, un autre problème d'évaluation, qui est celui que ces populations fragiles, justement, sont sous-représentées, voire absentes, dans les essais cliniques de phase 3. Donc ces essais cliniques de phase 3, il faut le rappeler, donc c'est les essais dans lesquels il y a cette évaluation de l'efficacité du vaccin. Donc,
sur une grande cohorte.
Sur une grande cohorte, voilà, mais normalement, ça va jusqu'à 100 000 personnes. Là, pour le Covid, ces cohortes sont bien évidemment très réduites, pour des questions de rapidité. Et donc, c'est plutôt entre 10 et 20 000.
Mmh. Aujourd'hui, il y aurait 10 vaccins en phase 3 en ce moment.
Il y a 10 vaccins en phase 3 aujourd'hui, donc, et qui effectivement sont sur des cohortes de 10 à 20 000 personnes, donc bien plus petites en fait que les cohortes habituelles
De phase 3,
de phase 3 classique. Et du coup, ça pose aussi la question très importante de tout un tas d'autres, enfin, tout un tas d'autres questions, en fait. Ces cohortes réduites, ces essais en phase 3 très rapides. Ça pose, par exemple, la question de l'efficacité à long terme. Puisque quand on teste une population plus petite, donc du coup, avec moins de variabilité sur un temps plus court, on peut s'inquiéter aussi de savoir comment est-ce qu'il va y avoir, qu'est-ce qui va se passer, en gros, après ces 3 ou 6 mois d'études cliniques. Un problème particulier sur ce sujet qui a été pointé par un des chercheurs que nous avons interrogé, qui est qu'en fait la plupart de ces vaccins, pas tous, mais la plupart vont cibler une protéine spécifique en fait, qui s'appelle Spike.
C'est la protéine de surface, la protéine S.
Voilà. Dont on parle beaucoup. Mmh. Et cette protéine, en fait, comme elle est en surface, elle est plus, en tout cas, elle peut être plus sujette à la mutation que d'autres, par exemple, que d'autres parties du virus qui seraient plus internes. Et si jamais les virus, enfin si jamais cette partie mute, les vaccins seront automatiquement à jeter. Ils marcheront plus du tout. Donc ça y est, voilà, il y a cette histoire d'effet de long terme. Il y a aussi la question des comportements, c'est-à-dire que avec un vaccin d'une efficacité potentiellement assez faible, est-ce qu'il sera raisonnable enfin forcément quelqu'un qui vient de se faire vacciner, même si on lui dit il faut quand même garder le masque, il faut quand même garder la distance sociale, ça pourrait avoir un effet de relâchement en fait sur les mesures barrières qui vont devoir être complémentaires et qui vont devoir être gardées peut-être au moment où on va commencer à injecter les premiers vaccins puisque leur efficacité ne sera pas suffisante.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore une fois là aussi différentes stratégies. Il y a cette stratégie à laquelle tout le monde pense, qui est dans l'esprit de tout le monde, de dire on va prendre un vaccin donc qui va viser le fait d'éviter les cas graves, c'est-à-dire d'empêcher la bascule dans des cas graves, donc d'éviter les hospitalisations, les réanimations à destination des personnes les plus fragiles. Mais il y a une autre stratégie vaccinale qui serait elle de vacciner au contraire les gens qui transmettent le plus, c'est-à-dire plutôt les jeunes, et pas du tout dans le but d'éviter les cas graves, mais pour le coup de bloquer la réplication virale.
Oui, c'est ça. Et c'est exactement ce que mettait en valeur l'épidémiologiste qui était interrogé dans le Journal des Sciences tout à l'heure. C'est qu'effectivement, en modélisant comme ça l'épidémie, on peut se poser la question de la stratégie, mais tout ça sera conditionné au final par l'efficacité des vaccins sur certains types de populations. Et donc il n'y a pas les réponses pour l'instant là-dessus. Et on reparlait, pour reparler des cohortes dont on parlait tout à l'heure et de la taille des cohortes et de cette longueur inhabituelle des essais cliniques de phase 3, ça pose surtout la question des effets secondaires. Mmh. C'est-à-dire, on peut se demander, et c'est la question que se posent même les chercheurs eux-mêmes, de savoir si dans ces essais cliniques, en nombre réduit, en durée réduite, est-ce que les effets les plus fins, donc les effets secondaires dans le cadre des vaccins, ça peut être des effets bénins qui vont, du coup, dans le cadre du bénéfice-risque, ne pas être un argument pour dire qu'on ne va pas sortir le vaccin, mais ça peut être aussi des effets un peu graves. Hein. On peut rappeler l'exemple du vaccin de la dengue, en fait, qui avait été testé en phase 3 en 2015. Et pour lequel on avait détecté chez les moins de 5 ans une narcolepsie assez sévère en fait, et cet effet n'avait pu être détecté en fait parce qu'il y avait eu un nombre suffisant, c'était 1 sur 16 000 je crois, un patient sur 16 000 qui développait cette narcolepsie.
Ce qui est très peu, mais le problème du vaccin et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par rapport à un médicament qui traite une maladie et pour lequel on peut supporter certains effets secondaires parce que ça va détruire la maladie qu'on va donner à des gens malades, là le vaccin c'est un médicament qu'on donne à des gens sains. Donc, dans la balance bénéfice-risque, les effets secondaires sont beaucoup moins tolérables puisqu'on le donne à des personnes qui ne sont pas malades pour prévenir la maladie. Et c'est bien le problème de la sécurité du développement des vaccins et c'est bien la raison pour laquelle les vaccins mettent autant de temps à être développés pour s'assurer que ces effets secondaires sont quasi nuls ou inexistants ou à des taux tellement faibles et tellement bas que même si on l'applique à des grands nombres, ça reste vraiment extrêmement marginal et rarissime.
Oui, c'est exactement ça. Et du coup, on a des chercheurs qui nous alertent et qui nous disent qu'on risque en fait avec ces cohortes de passer à côté des problèmes de sécurité et d'exagérer de fait les bénéfices. Et puis après, il faut se rappeler qu'on est dans un contexte particulier aussi en France de défiance vis-à-vis de la vaccination. Et le risque aussi, c'est que si des effets secondaires surgissent qui n'ont pas été bien évalués parce que les études cliniques ont été menées trop rapidement sur des cohortes trop petites, derrière, il y a une réaction en fait de défiance vis-à-vis des vaccins qui après, et un impact sur toutes les autres campagnes de vaccination. Donc on ne risquerait pas ça, on ne risquerait pas dans ce cas uniquement que l'efficacité d'une campagne de vaccination Covid, mais ce serait aussi derrière toutes les autres vaccinations obligatoires qui pourraient être mises en danger. Donc il y a tous ces risques-là, effectivement, dans un dans une situation très complexe avec une attente extrêmement forte hein, de la part de évidemment de tout un chacun de pouvoir trouver une solution. Une solution contre le Covid et on n'y est pas. On voit bien qu'on n'y est pas.
Il y a en tout cas, alors évidemment, il faut pas avoir de discours qui soit démesurément alarmiste, mais ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'on voit vraiment, parce que là, vous n'en évoquez que certaines parties, mais en tout cas, tous les obstacles, les très nombreux obstacles qui sont encore aujourd'hui devant les chercheurs et les chercheuses pour réussir à aboutir à un vaccin qui soit suffisamment sûr, qui soit facilement productible, c'est-à-dire qu'on puisse produire dans de nombreux pays, qui soit facilement accessible, qui soit facilement distribuable, parce que là on parle d'injection, l'injection il faut aller chez un médecin, il est possible d'imaginer des vaccins par spray nasal par exemple, bref, il y a encore vraiment aujourd'hui des problématiques de recherche qui sont nombreuses, complexes, et on a tendance à entendre dans le discours public que le vaccin va arriver au printemps prochain ou à l'été prochain, peut-être, mais ce sera certainement pas pour tout le monde. Enfin, en tout cas, avec encore beaucoup, beaucoup de précautions à prendre avant de se dire que le Graal est au bout du chemin.
Oui, c'est exactement ça. C'est que, en fait, c'est une situation compliquée et on aurait tort de s'imaginer voir tous faire la queue en avril prochain pour avoir notre dose de vaccin. Et sans doute que vous avez raison. C'est le résultat de. C'est le résultat de cette enquête qu'on a menée, c'est que dans cette problématique compliquée, la réponse sera forcément un peu complexe aussi. Et ce qui se dessine quand même, ce qui se dessine au fil des réponses techniques en fait, qui sont données par les chercheurs dans ce dossier, c'est que clairement, sans doute que la population des personnes fragiles sera la première vaccinée. C'est l'une des choses qui se dégage, évidemment, avec des vaccins avec une faible efficacité, avec des risques secondaires, avec des risques d'effets secondaires qui ne sont pas
modérés. Quand on dit effets secondaires, on parle de douleurs musculaires, d'un petit coup de fatigue, ce qui est le cas de certains vaccins. Je pense au vaccin, par exemple, de la fièvre jaune, qui peut donner une petite poussée de fièvre pendant 24 heures, qui sont des effets secondaires non graves.
Tout à fait, ce sont des effets secondaires
à prendre en compte malgré tout.
Voilà, à prendre en compte et à évaluer. Et en fait, finalement, la difficulté ici, elle est vraiment dans l'évaluation. Dans l'évaluation des risques, dans l'évaluation de l'efficacité.
Olivier, peut-être une réaction à ce long et difficile parcours jusqu'à l'élaboration d'un vaccin qui puisse être distribué à la population générale.
Oui, c'est un chemin de croix qu'on est en train de parcourir tous collectivement. On a publié sur le site web de Science et Avenir un long entretien avec le docteur Georges Gao, qui est ce médecin chinois qui avait, dans un entretien à Science en mars dernier, alerter les populations occidentales à la nécessité de porter le masque. Vous vous en souvenez, c'était ce moment où, en France notamment, on disait encore que le masque ne servait à rien. Et le docteur Gao, dans cet entretien à Science et Avenir, vraiment met l'accent sur le caractère très, très, très particulier de ce coronavirus et met en avant toutes les difficultés qu'on a à trouver les bonnes ligne d'action pour le contrer. Néanmoins, il explique qu'un coronavirus qui donne naissance à une pandémie comme celui-là, c'était quelque chose de tout à fait prévisible. Et il utilise l'image du rhinocéros gris et du cygne noir, l'oiseau, le cygne noir, en disant que un événement comme celui-là, pour les spécialistes, c'était un rhinocéros gris, c'est-à-dire un événement prévisible et auquel il fallait s'attendre. En revanche, pour le grand public, c'était un signe noir, c'est-à-dire un événement extraordinaire et inattendu. Il aurait fallu qu'on soit mieux préparé, sans doute, à l'arrivée d'une pandémie comme celle-là.
Puis se pose aussi la question de l'immunité, de la durée de l'immunité. Je l'évoquais ce matin dans la radiographie du coronavirus, comme tous les vendredis à 7h15 dans la matinale de Guillaume Herner. On va vous remettre le lien. On parlait, en l'occurrence, de la question et de la problématique des quelques réinfections qui ont été signalées dans la littérature scientifique. Pierre, vous vouliez réagir?
Oui, moi j'avais une petite thématique qui n'a pas été abordée, mais à mon avis qui découle de ces problèmes, de cette situation complexe de la recherche d'un vaccin, c'est la défiance des populations vis-à-vis de ce vaccin, parce que quand on est dans une situation où l'efficacité du vaccin sera pas terrible sur les populations qui seront concernées, vont pas nécessairement être celles qui réagissent le mieux à ce vaccin, est-ce qu'on va pas aussi droit vers une défiance encore plus absolue, surtout en France, vers la vaccination. Et ça c'est vraiment une source d'inquiétude.
C'est ce que disait un peu Mathilde à la fin de son intervention. On peut rappeler que en Europe, la France est le quatrième pays où la défiance vaccinale est la plus importante, hein, à 41% de la population, derrière la Russie, la Pologne, la Hongrie et la France. Alors, on va encore une fois prendre toutes les précautions épistémiques nécessaires. On ne sait pas encore quelle sera l'efficacité de ce vaccin, quel sera le premier vaccin, parce que comme il y en a plusieurs et avec notamment 5 stratégies, c'est-à-dire dans le dossier de Science et Vie, qui sont différentes, qui ne visent pas les mêmes mécaniques et les mêmes vecteurs de vaccination. Donc, il va peut-être y avoir plusieurs vaccins qui auront des efficacités, certains plus fortes, d'autres moins fortes, qui s'adresseront à différentes populations, donc une sorte de batterie de vaccins. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tout cela prend du temps, demande de la méthodologie scientifique, et que bien malgré la marche forcée de cette course au vaccin, eh bien, il y a un effort de recherche considérable et remarquable et inédit qui est en œuvre, qui est à l'œuvre et qu'il faut saluer.
Qu'il faut saluer, un vrai effort de retenue aussi de la part de la population, de la communauté scientifique en fait, qui essaye de maintenir ses barrières, qui essaye de maintenir l'efficacité de la méthode scientifique. C'est l'endroit pour le dire.
Oui, il y a comme une thématique punk en ce moment dans la méthode scientifique Anarchy in the UK. Je vous vendais les Sex Pistols de la vulgarisation scientifique. Voilà les vrais Sex Pistols, je vous le disais. Hein. La semaine prochaine, si nous sommes, croisons les doigts, en direct des Utopias à la Nantes, nous parlerons pour notre vendredi fiction de la science-fiction comme manifeste punk. Eh ben, on vous donne un petit avant-goût aujourd'hui de notre virage anarchiste via un hommage à un anthropologue disparu début septembre, David Graeber, qui avait théorisé les bullshit jobs, les jobs à la con, et qui revendiquait, Olivier Sylvicius Lascar, de pratiquer une anthropologie punk. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'anthropologie punk?
Alors déjà un mot effectivement sur David Graeber qui est mort subitement le 2 septembre dernier. Il était jeune, il avait tout juste 59 ans. Et il avait connu ces dernières années de succès importants. Il a fait beaucoup de ventes avec ses derniers bouquins. Il était connu pour être une des figures du mouvement Occupy Wall Street il y a quelques années. On disait même qu'il était l'auteur du slogan qui disait qu'on ne pouvait pas se faire à l'idée que 1% de la population détienne 50% des richesses. Et David Graeber, effectivement, avait fait en 2013 un papier sur les bullshit jobs dans lequel, dans cet article, c'était un article de presse pour une revue qui s'appelait Strike, dans lequel il s'interrogeait sur le fait que l'utopie qui avait été formalisée vers 1930 par l'économiste Keynes n'était pas arrivée. Cette utopie, elle consistait à dire que peut-être que avant la fin du siècle, on ne travaillerait que 16 heures par semaine les uns les autres. Et si cette utopie n'était pas arrivée, se demandait David Graeber, est-ce que c'était pas parce qu'on avait multiplié à l'envi le nombre d'activités qui ne servent à rien, ces fameux boulots à la con, les bullshit jobs. Et ça donne un bouquin qui est absolument passionnant, très stimulant, assez féroce, qui est édité en France par Les Liens qui libèrent et qui fait l'objet du papier qui est à lire sur le site de Science et Avenir.
Racontez-nous exactement qu'est-ce qu'entend David Graeber par ces boulots à la con, ces bullshit jobs. De quoi il parle exactement, Olivier?
Alors, il parle de ces métiers qui sont vides de sens. Les personnes qui les exercent peuvent avoir l'impression de multiplier les tâches bureaucratiques. Et c'est un des points sur lequel met le doigt David Graeber, qui dit que, alors qu'on ne vit plus dans des économies étatisées, on n'est pas à l'ère de l'Union soviétique, on est dans des environnements capitalistiques qui, avec cette fameuse loi du marché, devrait voir disparaître des activités non rentables, des activités qui ne servent à rien. Et bien, au contraire, on voit prospérer une forme de bureaucratie délirante à l'intérieur même des entreprises privées. Et suite justement au papier de Strike, ça a généré des quantités de réactions des gens qui ont écrit à David Graeber en disant « je me reconnais, moi, dans la description que vous faites d'activités dont je ne peux pas dire, je suis incapable de dire à quoi elle sert, je ne peux pas résumer mon travail, je suis consultant, je suis manager de mon manager ». Et j'ai une activité qui est vide de sens.
Il faut bien distinguer ces bullshit jobs des shit jobs, des sales boulots. On ne parle pas des petits boulots mal payés dont on s'est rendu compte, et encore plus dans cette période de confinement, qu'ils étaient absolument nécessaires et que c'était la première ligne de soutien de l'économie. On ne parle pas de ces petits boulots-là, on parle vraiment de boulots, au contraire, qui s'adressent plutôt à des gens très diplômés et qui sont en général plutôt bien payés.
Ce sont des activités qui sont diamétralement opposés. D'un côté, les bullshit jobs, ce sont les jobs à la con qui sont vides de sens, mais qui sont socialement portés au nu, qui sont souvent exercés dans des conditions matérielles très très enviables, et pour lesquelles les personnes qui les exercent reçoivent des salaires très confortables. Pour autant, ça ne sert à rien à la collectivité. Ce qu'explique David Graeber, c'est que si par un coup de baguette magique certaines activités liées au télémarketing, les chief happiness en entreprise, les managers de managers, comme je disais tout à l'heure, si ça venait à disparaître comme par enchantement, et ben la collectivité ne s'en trouverait pas particulièrement amoindrie. En revanche, à l'autre côté du spectre, il y a tous ces boulots, et là le confinement effectivement a agi comme un moment. Ça a été un moment de vérité. On s'est tous rendu compte que sans les caissières de supermarché, sans les soignants, sans les profs, sans les éboueurs, toutes ces activités qui sont extrêmement dévalorisées socialement, qu'est-ce qu'on n'entend pas sur les profs qui passent leur temps en vacances, etc., eh ben la société s'effondre. En revanche, ces boulots-là, sans lesquels on n'est rien, eh bien, socialement, ils ne sont pas reconnus, les salaires sont mauvais. Et ça correspond à ce que décrit, à ce qu'appelle ironiquement évidemment David Graeber, comme étant des boulots de merde.
Des shit jobs. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ce concept d'anthropologie anarchiste ou d'anthropologie punk ?
Alors, si Graeber s'est passionné pour cette problématique, et s'il a fait le bouquin en question, alors avec un corpus dont on peut discuter...
Et dont on discutera, mais... Allez-y.
Voilà. Alors, disons que si c'est passionné sur cette question, c'est parce que la question des inégalités était au centre de son travail, parce qu'effectivement, il tenait d'une forme de l'anthropologie qu'on appelle l'anthropologie anarchiste. Alors, l'anthropologie anarchiste, c'est pas l'anthropologie du chaos ou du bazar. Pour la comprendre, il faut aller finalement à l'étymologie du mot anarchiste et aller revoir que en grec ancien, arché, c'est le pouvoir. Donc, l'anarchie, dans ce sens-là, c'est contre le pouvoir. Les anthropologues anarchistes, ce sont ceux qui s'intéressent aux mécanismes qui peuvent empêcher la montée d'un pouvoir trop fort.
Et alors, vous le disiez, Olivier, et c'est intéressant, dans le cadre de notre émission qui s'appelle La méthode scientifique, c'est que, pour le coup, ce livre a eu effectivement beaucoup de résonance, mais la méthodologie de David Graeber a été assez vertement critiquée. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Elle a été questionnée puisqu'il s'est basé effectivement sur, d'une part, les réactions au papier initial de Strike. Il y avait, lui a travaillé sur un corpus d'à peu près 150 commentaires. Et après ça, il a fait un appel à la population via les réseaux sociaux, via Twitter. Et là, il a agrégé, je crois, à peu près 200 commentaires différents de la part des internautes, mais qui se désignaient eux-mêmes comme étant comme travaillant dans ces fameux bullshit jobs. Donc, il a travaillé sur un corpus de commentaires venant de personnes qui étaient déjà convaincues de la démarche et du modèle qui était établi par Graeber.
Et puis, je crois que par ailleurs aussi, le point de départ de sa démonstration, il se repose sur un seul sondage YouGov publié en 2015 sur 849 actifs britanniques interrogés, qui a donc un biais de sélection très très fort.
Voilà, absolument. Donc c'est pour ça que la méthode, la scientificité de David Graeber dans ce travail-là, elle peut être discutée. Il n'en ressort pas moins que Graeber était malheureusement un vrai anthropologue de terrain, qui avait fait des campagnes de terrain à Madagascar notamment, et qui avait travaillé sur des modèles de société où la question de l'inégalité pouvait être résolue de façon différente de ce qu'on voit dans nos sociétés contemporaines occidentales. Puisque pour parler de cette réaction au pouvoir, bien avant Graeber, d'autres anthropologues se sont posé la question, et on peut remonter. Alors c'est une tendance française forte, puisqu'il y a eu un anthropologue qui s'appelait Pierre Clastres, qui a beaucoup travaillé sur cette question. C'est quelqu'un qui était né vers 1930, qui est mort assez jeune dans un accident de voiture en 1977, et qui avait travaillé sur des peuples d'Amazonie. Lui avait travaillé sur les Guayaki, sur les Guarani, et il avait observé comment, au sein de modèles de groupes qui étaient extrêmement simples, émergeait toujours une figure de chef, parce qu'il y avait toujours une personnalité qui était plus forte à telle ou telle tâche dans le groupe, mais toujours des contre-pouvoirs étaient installés pour mettre en danger finalement le chef et menacer sa position, menacer sa chefitude.
Ah, je pense qu'on vient de perdre Olivier Lascar.
Pardon.
Comme on a entendu un petit bruit de décrochage, je me suis dit qu'on vous avait perdu. Un mot pour conclure. Alors on entend bien, Olivier, que vous avez été assez séduit par les travaux de David Graeber. Il est intéressant de les lire avec cette mise en contexte critique. Il y a effectivement un certain nombre de papiers qui ont été produits, et notamment sur une forme de conception, de vision positive de l'emploi indépendant qui a été elle aussi beaucoup discutée.
Oui, il est c'est la limite du théoricien qui a aussi un rôle dans la sphère politique. C'est-à-dire que Graeber a pris des positions très fortes sur nos modèles de société, et du coup on peut trouver que parfois il manque du recul nécessaire qui est normalement inhérent à la position du scientifique.
Un mot, Mathilde, Pierre, sur les bullshit jobs, Mathilde.
Bah moi, je trouve que effectivement, là, ce qui ressort, enfin, je connais assez peu ses travaux, mais c'est que c'est un roi de la formule, et on voit bien pourquoi est-ce qu'il peut glisser après vers la politique dans une deuxième partie. Ce mot valise bullshit jobs est très percutant et nous a tous impressionnés quand l'article est paru dans Strike.
Et nous allons glisser comme des anguilles vers le prochain sujet.
France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin.
Et 16h45, dernier sujet de cette table ronde consacrée à l'actualité scientifique et de la recherche. Vous avez certainement peu ou prou toutes et tous appris à l'école que les anguilles, ces étranges poissons filiformes d'eau douce, se reproduisaient à l'autre bout du globe en traversant l'océan jusqu'à la mer des Sargasses. Folie ! Que dis-je ? Un récent article publié le 6 octobre... Vraiment, je comprends pourquoi je n'ai pas fait acteur, ça marche pas du tout. Publié le 6 octobre dernier dans Scientific Reports, assure avoir élucidé les zones d'ombre qui restaient autour de cette théorie et trouvé le véritable endroit de reproduction des anguilles. C'est ce mystère que vous levez aujourd'hui devant nos oreilles ébahies, Pierre Kerner.
En tout cas, je vais essayer. À vrai dire, si j'avais parié sur le sujet de l'un des plus impénétrables mystères de la biologie, j'avoue que j'aurais pas misé sur l'anguille. Bille. En fait, ce poisson de la famille des élopomorphes, dans laquelle on retrouve aussi les congres, les murènes, les grands gousiers, qui a une morphologie, une physiologie originale, avec son corps serpentiforme, dépourvu d'écailles, à pattes branchies, une peau, en tout cas très très réduite, une peau lisse, sécrétant abondamment du mucus pour permettre une respiration cutanée. Certes, c'est intéressant, mais pas un mystère qui date depuis plusieurs millénaires. Parce que, en fait, ce poisson existe depuis très longtemps. C'est un mets raffiné, apprécié par les Japonais et par les Européens depuis très très longtemps. Et surtout, c'était un poisson fortement abondant dans nos rivières. Donc, je n'arrivais pas à imaginer qu'on puisse avoir une telle incompréhension de son cycle de vie. Alors, si vous voulez, je vous emmène un petit peu dans cette enquête.
Allons-y.
Qui commence donc avec le papa de la zoologie, Aristote, qui, lui, donc, a émis la première théorie un petit peu farfelue sur la naissance des anguilles, puisqu'il a supposé que les anguilles naissaient par génération spontanée à partir de vers dans la terre humide, comme il le décrit dans son Histoire des animaux. Alors, pourquoi il a eu cette idée saugrenue? C'est la conséquence de son incapacité à découvrir où se logent les organes génitaux des anguilles, à contrario de nombreux autres poissons dont les dissections lui révélaient assez aisément la position des poches d'œufs ou des testicules. Alors donc, il y a eu d'autres théories. Pline l'Ancien qui pensait que les anguilles naissaient en se frottant contre les rochers et que les sortes de pellicules qui en sortaient donnaient de nouvelles anguilles. Un révérend qui pensait que c'était l'action de la pluie sur les toits de chaume. Des paysans convaincus que elles apparaissaient quand des crins de queue des chevaux tombent dans les rivières. Moi, ma préférée, c'est bien entendu celle qui invoque le parasitisme.
Bien sûr.
Voilà.
Ça fait pas.
Non. Donc, Anthony von Leeuwenhoek a fait des très très minutieuses observations et il pensait que le poisson était vivipare. Pourquoi? Parce qu'il avait cru voir, à l'aide de son invention, le célèbre microscope, des bébés anguilles dans la vessie natatoire de certains spécimens, mais en fait, ce sont avérés être des vers nématodes parasitaires, probablement de l'espèce Anguillicola crassus, et d'ailleurs parasitisme qu'avait déjà identifié Aristote près de 2 millénaires plus tôt.
D'accord.
Donc vraiment, alors il y en a encore un autre, si on me permet de parler encore de parasites, c'est un Écossais qui s'appelle David Cairncross qui lui a publié un livre. Donc c'était pas un scientifique, c'était un ingénieur, naturaliste amateur, et lui il a écrit un livre qui s'appelle L'origine de l'anguille argentée et remarque sur la pêche à l'appât et à la mouche. Donc visiblement il voulait combiner dans un seul livre tout ce qui l'intéressait, et il clame avoir percé le mystère de l'origine des anguilles qui simplement, selon lui, s'extirperait de l'anus de coléoptères. Et il s'avère que c'est bel et bien encore une fois du parasitisme, puisque ce sont des vers nématomorphes cette fois-ci, qui utilisent leurs hôtes coléoptères pour pouvoir rejoindre un point d'eau.
Alors, d'où viennent les anguilles, Pierre? Surtout, à un moment donné, pourquoi cette idée que les anguilles viennent de la mer des Sargasses? Ça vient d'où?
Donc, ça vient d'une part de l'impossibilité de voir où étaient leurs testicules et leurs ovaires. Donc, pendant très longtemps, on pensait tout simplement que c'était une reproduction de non sexuée.
Parthénogenèse.
Voilà. Même Freud a cherché les testicules. Merde. Ah bah encore une fois. Il a cherché les testicules des anguilles sans succès. Et donc c'était une de ses premières publications scientifiques qu'il a publiée à l'âge de 19 ans. Et il a fallu attendre donc les découvertes de Giovanni Battista Grassi qui, coup sur coup, identifia les testicules d'une anguille mâle, mais surtout les stades précoces de la vie des anguilles. Et Le mystère venait que, alors que l'anguille d'Europe et aussi l'anguille américaine sont des espèces dulces aquicoles, c'est-à-dire qui vivent dans l'eau douce, les étapes larvaires se font dans l'eau de mer, donc dans l'océan. Donc c'est exactement à l'opposé des saumons. C'est-à-dire que les saumons, généralement, ce sont les individus matures qui remontent le cours des rivières, alors que ici, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la charge de remonter le cours des rivières est dévouée à des petites larves qui, en plus, ont une apparence totalement différente des anguilles classiques. On les appelle des larves leptocéphales. Elles sont totalement transparentes. Elles ont au début l'apparence de feuilles de saule. Vraiment, il faut regarder.
On va vous mettre des images sur le fil Twitter. C'est vrai que c'est très très impressionnant.
Ouais. C'est vraiment incroyable. Donc c'est un corps rempli de mucilage transparent, un tube digestif très court, une absence de globules rouges. C'est totalement transparent. Et en fait, il a fallu attendre que un biologiste danois, Johannes Schmidt, au début du XXe siècle, commence à chercher où se trouvaient ces larves pour pouvoir identifier le lieu de la possible ponte des anguilles. Et donc, alors lui, il a hérité de la fortune de Carlsberg grâce à son épouse. Son épouse était héritière de la fortune Carlsberg et ça a pu financer ses expéditions, lui permettant ensuite de treuiller par des filets de plus en plus fins la découverte de larves de plus en plus petites jusqu'à découvrir le 12 avril 1921 les spécimens les plus petits dans la mer des Sargasses, non loin du triangle des Bermudes. Vous imaginez un petit peu comment le mystère peut être encore plus épais après cette découverte-là.
Ça, c'est parce que vous aimez X-Files, mais ça n'a rien à voir avec la science. Juste depuis 1921, moi, c'est ce qu'on m'a appris à l'école, les anguilles se reproduisent dans la mer des Sargasses, mais en fait, il reste plein d'éléments de ce mystère qui n'ont pas été levés, et ça, il manque encore beaucoup d'éléments pour résoudre cette question de la reproduction des anguilles.
Déjà, il faut se représenter quand même le caractère extraordinaire de trouver ici les larves les plus petites. Les mers des Sargasses, c'est la seule mer qui existe, qui est au milieu de l'océan Atlantique et qui n'est pas bordée par des côtes terrestres. C'est en fait bordé par des courants marins qui ferment une énorme étendue d'eau sur lequel, en fait, il n'y a pas de courant. L'eau est très très stable. D'ailleurs, Christophe Colomb a traversé la mer des Sargasses et c'était vraiment une épreuve parce que en fait, il n'y a pas de vent,
Pétole.
Voilà. Et c'est rempli d'énormes algues, les fameuses sargasses, et c'est au-dessus d'une étendue d'eau qui est vraiment très très profonde, qui peut s'étendre à plusieurs kilomètres, donc avec une salinité excessive. Mais c'est surtout à des milliers de kilomètres des côtes européennes ou américaines. Donc il faut s'imaginer que ces larves parcourent à travers une migration une des plus importantes des milliers de kilomètres pour ensuite retrouver le cours d'eau et accomplir le cycle. Alors, la question, donc, c'est comment, déjà, ces larves se repèrent, mais surtout, pourquoi le mystère est encore complet? C'est tout simplement parce qu'on n'a jamais trouvé d'adultes dans la mer des Sargasses. Il y a uniquement du balisage qui a été fait avec des
balises Argos.
Voilà, exactement.
Des balises GPS, bref.
Exactement. Et il y a, sur les 800, presque des milliers de spécimens qui ont été lâchés des côtes européennes ou américaines, il y a un seul spécimen qui a été retrouvé dans la mer des Sargasses, mais on n'a pas retrouvé la balise, on a juste retrouvé son signal. Donc on ne sait pas...
Le triangle des Bermudes.
Voilà, c'est exactement. On ne sait pas, à l'heure actuelle, à quoi ressemble véritablement la reproduction.
Et alors, du coup, résolvons l'énigme, Pierre, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps.
Bien entendu, c'est un biologiste, Eric Fenton, qui a fait appel à une éminence du milieu de la zoologie, Katsumi Tsukamoto, un zoologiste japonais qui est le seul à avoir prédit et identifié de manière indiscutable le lieu de reproduction d'une autre espèce d'anguille, l'anguille du Japon, Anguilla japonica. Et donc, en faisant appel à cet expert, ils ont utilisé cette fois-ci des modèles migratoires prenant en compte de nombreux signaux auxquels sont sensibles les larves d'anguilles, les odeurs soufrées des dorsales, les courants, les températures, même le champ magnétique terrestre, pour aboutir finalement à une région océanique, encore, mais à 2000 km à l'est de la mer des Sargasses. Donc, cette région...
Donc, en plein milieu de la dorsale atlantique.
Exactement. Quasiment. Pourrait être un lieu potentiellement complémentaire de la mer des Sargasses. On ne nie pas non plus que les larves ont été trouvées à cet endroit. Mais ça vient aussi du fait qu'il y a plusieurs faisceaux d'indices et de preuves qui montrent que ces larves sont mobiles, notamment. Et donc, la plupart des modèles ignoraient que ces larves étaient mobiles. Et surtout, la présence donc de composés chimiques à l'intérieur de leur corps qui laissent présager que, au contraire de la présence dans la mer des Sargasses, cette dorsale serait un meilleur lieu dans lequel on pourrait retrouver ces larves.
Mais le problème, c'est qu'on n'en a pas retrouvé pour le moment, c'est strictement théorique.
Voilà, donc c'est encore un modèle théorique. Le mystère, bien qu'il date depuis plusieurs millénaires, est encore entier.
Et ce qui est intéressant, c'est que, pour conclure Pierre, cette étude a eu du mal à être publiée.
Ah oui, c'est-à-dire que Eric Fonte, bien entendu, quand on essaye de déloger le ponte de la zoologie danoise qui a fait une expédition de plus d'une vingtaine d'années et qu'on arrive avec un théorème, une théorie uniquement fournissant des modèles mathématiques de courant, etc., ça a du mal à déloger le ponte.
C'est ça. Néanmoins, il va y avoir là des campagnes de pêche pour essayer de voir si cette théorie est valide et donc on devrait avoir la réponse finale ou en tout cas un élément de réponse supplémentaire bientôt.
Sachant que l'enjeu en plus économique est très très important puisque les populations d'anguilles ont complètement décliné au Japon, en Europe, et donc ça permettrait éventuellement de mieux comprendre comment on pourrait reproduire par aquaculture le cycle complet.
Merci beaucoup à tous les trois. À la une de Science et Avenir, Olivier, pour le mois de novembre.
Oui. Emmanuel Charpentier pour son Nobel et guérir avec la génétique, c'est le titre de une.
Mathilde Fontaine à la une de Science et Vie.
À la une de Science et Vie, mais à cette grosse enquête sur les vaccins contre le Covid.
Passionnante, qu'on vous recommande. Pierre Kerner, dans les prochains billets de votre blog.
Je vais publier celui-ci. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur notamment d'autres animaux, d'autres poissons élopomorphes, il y en est dans Nature Secrète que j'ai publié avec Patrick Beau aux éditions Dunod.
Et on peut toujours vous lire dans Moi Parasite aux éditions Belin. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Céline Lezenne, François Malordi, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Dominaguette Saint-Vulfranc, Natacha Triou, Hélène Trigueros qui nous a accompagnés toute cette semaine à la réalisation et qu'on salue, et Clément Daté à la technique. La semaine prochaine dans le labo de la méthode scientifique, lundi, et bien suite au prix Nobel de médecine, nous parlerons de l'hépatite C. Mardi, nous partirons aux confins du système solaire pour découvrir le nuage d'Oort. Mercredi, nous nous demanderons ce que les réseaux sociaux ont fait à la vulgarisation scientifique en bien et en mal. Jeudi, nous partirons à la découverte de mondes inconnus ou tout du moins mal connus, les toutes premières civilisations précolombiennes. Et vendredi, donc, émission spéciale, si Carl Sagan le veut, en direct du festival Les Utopias à la Nantes, consacré à la SF comme littérature punk. Demain à 16h, vous retrouverez le camarade Étienne Klein dans la conversation scientifique Qu'est-ce qu'une vie de plante avec Florence Burgan, où on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.